Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Vous souhaitez vendre sur internet? Bonjour, 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 c'est Bertrand, votre coach web. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, épisode 408. Et oui, aujourd'hui, on va parler un petit peu de vente sur internet, ou plutôt des statuts qui tournent autour de la vente sur internet, parce que vous savez, cette semaine, pour cette semaine de reprise, je suis dans mes Ask Bertrand, les questions que vous m'avez posées. J'ai eu deux questions sur cette optique-là. Sylvain, d'abord, qui me demandait quel statut pour vendre du contenu en ligne, me demandait s'il fallait être auto-entrepreneur. Et Rémi, faut-il forcément que l'influenceur ait un statut d'auto-entrepreneur pour que l'on puisse passer par un système de facture tout simple, ou existe-t-il un moyen plus direct? Alors déjà, je dois vous dire, moi je ne suis pas avocat, qu'il y a des subtilités, etc., mais je voudrais vous donner un cadre global. Quand on vend et propose de la prestation, d'une manière ou d'une autre, il faut émettre des factures. C'est le cas si on vend du contenu, le métier d'infopreneur, par exemple, si vous vendez des formations en ligne, si vous vendez des documents, des e-books, etc., à un moment donné, il faudra déclarer ces revenus-là. Si vous voulez travailler comme influenceur, c'est-à-dire vendre de la prestation, vendre votre image, ou vendre la mise en avant de produits à une entreprise, il faudra aussi que de déclarer cette prestation commerciale, j'ai envie de dire, c'est une prestation commerciale. Et de l'autre côté, une entreprise qui fait appel à un influenceur, elle a aussi besoin de justifier, d'une manière ou d'une autre, qu'elle a fait appel à l'influenceur, et dans sa comptabilité, il y a des entrées et des sorties. À un moment donné, quand on regarde la comptabilité, quand elle sort de l'argent, il faut qu'elle justifie où est parti l'argent. Et pour justifier ça, elle a besoin de factures. Et la règle, c'est que la facture est obligatoire pour tout échange commercial entre deux professionnels. Voilà. Et quand vous êtes vendez une prestation de service, vendez un produit ou quoi que ce soit, quelque part vous rentrez comme un professionnel, quelle que soit votre structure juridique, une société, une association ou entrepreneur individuel. Finalement, on rentre dans ce cadre-là. En fait, il y a un cas où on en serait dispensé, c'est les professionnels qui sont dispensés d'établir une facture pour des échanges avec un particulier, mais c'est en certains cas, ils doivent faire des notes, etc. Et même si vous vendez, par exemple, des marchandises, l'émission d'une facture est obligatoire, même quand c'est de la vente à distance. Elle est obligatoire si le client demande la facture, elle est aussi obligatoire à partir d'un certain montant. Donc, on va dire que le cadre global, vraiment le cadre global, c'est que pour facturer, vous devez obligatoirement être immatriculé en tant qu'auto-entrepreneur ou micro-entrepreneur ou au régime des travailleurs indépendants. Il n'existe aucune limite, aucune exonération ou régime vous permettant de facturer sans être immatriculé. Voilà, ça, c'est dit. Donc, à un moment donné, il faut rentrer dans les clous. Alors, vous allez me dire, oui, mais si je veux être influenceur, et si, en fait, moi, j'ai un compte Instagram qui on me demande de juste mettre en avant des produits. Alors, il y a un cas qui saurait dire, on vous donne le produit et c'est juste, vous me donnez le produit et puis moi, j'en parle. Dans ce cas-là, oui, il n'y a pas de déclaration parce que vous n'allez pas pouvoir faire une facture d'un produit qu'on vous donne. Vous ne pouvez pas faire une facture à 0€. Mais sinon, du moment qu'il y a de l'argent, à un moment donné, il va falloir faire une facture. Après, ça va dépendre un petit peu de ce que vous allez vendre, tout simplement. L'influenceur, il peut vendre quoi? Alors, il peut vendre une prestation, on va dire, de fourniture de contenu à caractère commercial. Par exemple, on avait parlé dans un épisode de Monoprix qui m'avait demandé des contenus pour son blog. Et en tant que, on va dire, blogueur influenceur, je facture à Monoprix la rédaction de contenu pour son blog, pour leur blog à eux. Mais si c'était sur mon blog à moi pour parler d'eux, je leur demanderai une facture aussi. Ça peut être pour la mise en avant de produits. Une marque, je sais pas, de confiture m'envoie un produit et me dit, tiens, je vous donne 1000€ pour en parler sur votre compte Instagram. 1000€ pour un pot de confiture, vous pouvez penser que c'est beaucoup, mais finalement, je peux vous garantir qu'il y a des influenceurs qui gagnent beaucoup plus que ça pour une bouteille d'eau. Là aussi, l'influenceur va devoir faire une facture pour dire, oui, je dois déclarer, et puis l'entreprise va dire où va passer l'argent. Et il y a aussi une question de contrat qui va rentrer là-dedans, quelle est la contrepartie, qu'est-ce que font les uns et les autres, etc. Et donc, il y a la facture. Donc, voilà, là, on est dans ce cadre-là. Toutefois, l'influenceur, il y a un cas qui est intéressant, et de la loi française d'ailleurs, là-dessus est peut-être un petit peu encore, il y a encore des choses qui doivent se préciser, c'est que il y a un moment donné, l'influenceur, pour être lié à la marque, pour être mannequin, vous voyez, c'est-à-dire poser, c'est-à-dire apparaître, il vend son image, j'ai envie de dire. Et ben là, on est dans un cas particulier, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans de la prestation de service très classique. En fait, on rentre dans un cadre qui rentre dans le contrat de travail. Et oui, dans le contrat de travail. Alors, il y a encore des incertitudes sur le mannequin, est-ce que ça rentre, si je suis mannequin pour la marque, sur ses statuts, sur chez elle, etc. Il y a tout un tas de trucs, et là-dedans, il vaudrait mieux voir un avocat. Mais oui, l'influenceur pourrait être aussi lié, finalement, par un contrat de travail. Et c'est là où, en fait, j'ai envie de vous dire quelque chose, c'est que l'influenceur peut à la fois facturer les choses en tant que prestation de service, et donc là, il lui faut un cadre juridique pour faire la facture, mais il pourrait très bien aussi de se dire qu'il pourrait travailler pour une entreprise qui l'embaucherait avec un contrat de travail. Ça serait obligatoire si c'est pour être mannequin, mais on pourrait très bien considérer aussi que si vous avez besoin d'un influenceur pour travailler quelques heures pour vous, vous pourriez lui faire un contrat de travail, voilà, tout simplement. Alors ça serait à valider, voir ce qui serait le plus intéressant. Probablement c'est plus lourd de faire un contrat de travail, mais c'est possible, oui, franchement, c'est possible. Et je le dis, hein, je le répète, dans le cas du mannequin, c'est même obligatoire. Moi, je suis rentré dans ces cadres-là, hein, je le dis, par exemple, l'an dernier, j'ai fait une pub pour un opérateur téléphonique. La société qui faisait la pub, qui tournait la pub, m'a fait signer un contrat de travail, vraiment, alors un contrat juridique et un petit contrat de travail, et ce petit contrat de travail, c'était un contrat de 2 heures, ou 3 heures, ou quelque chose comme ça, enfin vous voyez, un truc pas grand chose, c'était un CDD, voilà, pour la matinée, sur lequel, en plus, on voit que mes mains dedans, donc on voit pas grand chose, mais c'est le contrat était, rentre là-dedans, dans ce cadre-là, hein, tout simplement, finalement, on va dire, j'étais mannequin main pour une matinée, et ben, j'avais un contrat de travail. J'aurais pas fait de facture, ils m'ont fait un petit contrat de travail. Mais peut-être que si je leur ai vendu, mise en avant de leurs produits sur mon compte Instagram, et ben dans ce cas-là, on aurait fait un contrat, une facture, hein, tout simplement, un contrat avec une facture. Alors, maintenant qu'on a dit ça, on en revient à la question de statut juridique. Eh ben oui, on a dit statut auto-entrepreneur, c'est forcément le plus simple, hein. Il a été fait pour être simple, même s'il le complexifie un petit peu au fil des années, mais c'est le contrat le plus simple. En fait, il permet de créer une entreprise en effectuant un peu de démarches administratives. L'idée, en fait, c'est que pour faire une facture, il faut un numéro de SIRET, hein, donc il faut déclarer une entreprise. Quand vous êtes auto-entrepreneur, vous créez une entreprise, hein, une petite entreprise, mais qui a des démarches qui sont très allégées. C'est parfait, par exemple, si vous êtes salarié, que vous déclarez une activité à côté, ça c'est un statut qui est parfait, moi je l'avais fait pendant très longtemps comme ça. Il y a un cas, hein, si vous êtes fonctionnaire, il y a des trucs à vérifier, je crois qu'il faut l'accord de votre collectivité ou de l'État, mais ça c'est vraiment un cas à vérifier. C'est pour ça que je vous dis que je suis pas juriste, hein, donc il y a des petits cas à vérifier à chaque fois, mais le statut d'auto-entrepreneur, c'est le plus simple. Si vous avez l'ambition, par contre, de ne faire que ça, eh ben, il faudrait peut-être se diriger vers une société. EURL ou SASU, par exemple, qui sont des sociétés faites pour des entrepreneurs individuels, mais qui ont plus de contraintes, avec des facturations, etc., mais qui ont aussi leurs avantages, hein, protection sociale, juridique, etc. Et puis, il y a une question aussi de TVA. La TVA, hein, c'est une grande question chez les auto-entrepreneurs. Au début, vous n'êtes pas assujetti à la TVA. Vous êtes assujetti à la TVA à partir d'un certain plafond, etc. Ça peut faire peur, mais cet assujettissement à la TVA a aussi des avantages. C'est que une entreprise qui est assujettie à la TVA récupère la TVA aussi. C'est-à-dire que ben, quand vous récupérez la TVA, si vous achetez un ordinateur de 1000 euros, au final, il ne vous coûtera que 800 euros. Parce que les 200 euros de TVA, quelque part, ben, vous allez pouvoir dire à l'État, ben voilà, j'ai facturé 1000 euros, j'ai dépensé... j'ai facturé tant, j'ai dépensé tant, j'ai collecté tant de TVA et puis j'en ai dépensé tant pour acheter mon matériel professionnel. Et ben l'État vous dira, ben non, ben finalement vous devez nous verser tant de TVA. Et ben vous récupérez. Certes, vous avez bien acheté votre ordinateur 1000 euros, vous avez bien fait un chèque de 1000 euros pour acheter l'ordinateur, mais au final il ne vous coûtera que 800 euros. Et moi j'avais fait des calculs à une époque. Entre les frais d'hébergement de site, les noms de domaine, les achats de livres, etc., quand on récupère la TVA à droite à gauche, plus sur un ordinateur à 1200, 1300 euros, plus même sur du matériel type des téléphones, etc., vous vous rendez compte quand même que c'est super intéressant d'être assujetti à la TVA, même si ça vous fait une contrainte de plus, faut déclarer la TVA, faut la sortir. En fait, faut se rappeler qu'on la collecte, hein, seulement. C'est un mécanisme qui est un peu spécial, hein, mais qui est très intéressant aussi, sur lequel il faut se pencher, parce que c'est un des mécanismes de l'économie française. Faut savoir, hein, c'est les Français qui ont inventé la TVA, le mécanisme est fort bien foutu, je peux vous le garantir. Une autre solution serait de passer par le portage salarial. Portage salarial, c'est quoi? Ben, c'est une société dite de portage. C'est elle qui va émettre la facture, c'est elle qui va être payée et qui va vous reverser un salaire en échange. Voilà, tout simplement. Elle va vous être salarié pour quelques heures de la société et c'est elle qui fait la facture, c'est elle qui récupère l'argent. Et au passage, bien sûr, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va payer les cotisations sociales, elle va payer toutes les cotisations salariales, patronales, etc. Elle va payer, ben, elle va s'occuper de la TVA et elle va aussi prendre sa commission, son petit pourcentage, ben, pour avoir fait cette prestation-là. Moi, j'ai un statut qui est celui d'entrepreneur salarié. Alors, en apparence, ça ressemble à celui de du portage salarial, sauf que moi, je suis membre d'une coopérative d'activité et d'emploi, une CAE, et qu'en fait, la CAE, bah, c'est quoi? C'est une coopérative, hein, vraiment une coopérative, hein, c'est un statut SCOP. Ça veut dire que je suis, en fait, tout simplement actionnaire de ma coopérative d'activité et d'emploi. On est un certain nombre de salariés, on est tous actionnaires à partir d'un certain niveau. Ce qui veut dire aussi qu'on a un certain droit de regard, on prend des décisions, on vote sur des choses, etc., sur tout un tas de choses. Alors, suivant, je suis dans plusieurs coopératives, hein, tout simplement, elles ont chacune leurs caractéristiques, il y en a une qui a sujeté à TVA, pas les autres, il y a tout un tas de trucs qui sont trop compliqués pour être abordés en quelques minutes comme ça. Vraiment, si vous avez des questions, vous pouvez me les poser en direct, je vous dirai comment ça fonctionne exactement, mais c'est pour le principe vraiment, c'est ça, c'est que la facturation est faite par ma coopérative d'activité et d'emploi, qui encaisse l'argent, hein, qui s'occupe de toutes les démarches, la TVA, les cotisations, etc., et qui me reverse mon salaire. J'ai un statut de salarié, avec la protection d'un salarié, avec aussi quand vous allez voir un banquier pour emprunter pour une maison, et ben vous êtes salarié, donc elle se pose pas la question de savoir quel est votre statut ou quoi que ce soit, vous rentrez dans le cadre du salariat, voilà, tout simplement, et c'est un CDI. Le volume du salaire est fait en fonction de ce que vous facturez, tout simplement, mais c'est comme pour le portage salarial, sauf que dans la CAE, on est plutôt sur une durée longue, on n'est pas sur de la mission, etc. Et puis, on n'est pas régi par les mêmes lois, et d'ailleurs, la loi des CAE est probablement plus intéressante, hein, c'est l'économie sur la loi sociale et solidaire, et le statut d'entrepreneur salarié a été codifié dans la loi, et d'ailleurs, c'est ce qui fait souvent qu'on a, enfin, il y a une tendance à ce que les sociétés de portage salarial essayent de passer en CAE, parce que tout simplement le statut de CAE serait plus intéressant, et souvent on les confond les deux, mais ça fonctionne pas tout à fait de la même manière, et moi j'en vois très régulièrement des gens, d'ailleurs je le dis très clairement, qui voudraient être, qui sont entrepreneurs, et souvent quand ils veulent passer un cap, à partir d'un certain niveau, quand ils veulent plus de protection, etc., je les envoie souvent vers de la CAE, hein, quand ils veulent pas s'embêter avec des démarches administratives, etc., mais c'est pas l'avis de tout le monde, hein. Par exemple, si on en parlait avec ma sœur, qui est expert comptable, etc., enfin qui est plus que ça, qui dirait ben, que de toute façon il serait plus intéressant d'être en EURL, etc., pour des questions de coût. Et donc c'est là où le choix du statut est très important. Si c'est pour quelques centaines d'euros dans le mois, même dans le mois, il faut pas s'embêter, parce que même le statut d'auto-entrepreneur, on peut monter, si on vend que du produit en ligne, etc., ça peut monter même à plusieurs milliers d'euros par mois sans aucun souci de revenus. Mais il y a certaines considérations techniques à prendre. Et c'est là où je pense que c'est vaut le coup aussi. Ben, ça peut être des avocats, mais ça peut être aussi des comptables, etc., qui vous donneront les subtilités. Pourquoi est-ce qu'il vaut mieux choisir un statut qu'un autre? Parce que si vous gagnez plusieurs milliers d'euros, que si vous voulez faire vraiment votre activité, il y a un moment donné, et ben ça va vraiment rentrer en jeu. C'est-à-dire que les 2-3% que vous gagnez d'un côté sur 100 euros, bah c'est pas très important. Les 2-3% sur 10 000, 20 000, 30 000 euros de revenus, et ben ça va devenir très important. Je vous le dis, moi, rien que sur cette histoire de TVA sur les achats informatiques et technique, c'est vraiment une différence qui est extrêmement importante. Voilà, j'espère que j'ai répondu Rémi et Sylvain à vos questions, hein. J'espère que j'étais assez clair, voilà, j'ai essayé de faire le plus clair possible. Je vous le répète, hein, je vous donne vraiment un cadre qui n'est pas le cadre d'un juriste, mais vraiment le cadre de moi, ce que j'ai vu. Moi, j'étais en association à une époque, j'étais, ce que je vous déconseille, j'étais en auto-entrepreneur, je suis maintenant en entrepreneur salarié. Avec ma femme, on a même une SARL, voilà, pour à une époque. On a un petit peu goûté un petit peu à tout. Je vous ai donné mon cadre global. N'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez m'envoyer un petit message. Et si vous avez des questions générales sur la création de contenu, le marketing, le copywriting, le storytelling ou ne sais quoi, bah, n'hésitez pas, vous continuez à poser vos questions sur votrecoachweb.com/répondeur. Et moi, je vous répondrai dans les prochains épisodes. Voilà, je vous souhaite à tous une très très belle journée. Et je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Ciao. Ciao les créateurs!
Hold up! What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.